Radio de la Paix.
Reportage.
Comment contenir les menaces asymétriques le long de la bande frontalière nord de la Côte d'Ivoire quand on sait que le filet sécuritaire est parsemé de trous, des trous qui sont les sites d'empaillage clandestin, les tracasseries routières, la migration des travailleurs saisonniers maliens? Pour la plupart, à cette liste non exhaustive, il faut ajouter l'occupation anarchique des forêts classées, le chômage des jeunes, le manque d'infrastructures de base dans bien des localités. Nous avons pris les pistes à moto pour vivre les réalités des populations dans les villages. Voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde en compagnie de Bakary Touré-Labbas. Commençons notre périple à Zewasso, village aurifère situé à 7 km au sud de Diéné. Village où l'empaillage clandestin prospère malgré l'interdiction qui en est faite par le gouvernement. Sous le sceau de l'anonymat, l'un des empailleurs a accepté de répondre à nos questions.
On est obligé de se débrouiller pour nourrir nos familles. Voilà, donc c'est ça qui est là. Moi, je suis dedans, ça fait au moins 8 ans. Avec ça, on arrive à nourrir nos familles. Et moi, je viens d'Awasso.
1000 km, c'est pas beaucoup.
C'est mieux de se débrouiller si vous voulez d'aller voler.
Le site d'empaillage est précisément à 5 km plus à l'ouest du village des Oasso. Dans son atelier de fortune, une baraque faite en bâche plastique noire, Odrago Suleiman, son collègue, a quant à lui pour tâche de concasser à coups de marteau les pièces sorties des sites en vue d'extraire la palette d'or.
Mais tu fais quoi là?
Je suis en train de casser pour que on puisse aller mettre ça dans la machine après pour broyer. Si c'est broyé, voilà. Là-bas, on va aller tamiser pour prendre, pour voir s'il y a de l'or dedans.
Dans ce milieu d'abri de fortune, les empaillades sont clandestins, quoi.
Voilà.
Mais il y a aussi que vous gagnez souvent, hein?
Souvent, on gagne. Souvent, même là, tu peux faire, on met un an dans ça, même là. Tu peux même pas en poser 5 000.
Puis, il n'y a pas d'entrée. Tu fais comment pour vivre?
C'est un truc qu'on a déjà habitué. Donc, comme la terre, tu es obligé de supporter. Dors dans la poussière, il n'y a pas de bonne maison pour dormir. Parce que ce n'est pas un métier qui est garanti. Nous, mais on est là, on n'est pas en sécurité.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que souvent, il y a les conditions, on doit payer. Mon site n'a pas payé. Bon, souvent, les trucs comme ça, quand ça arrive, on s'en va là-bas, on cause. S'il y a l'argent, on lui donne. Nous, mais ça va les donner là-bas. Une fois que l'argent arrive là-bas, on peut travailler tranquillement. Mais une fois que l'argent n'est pas arrivé, c'est le problème qu'il y a là. Ce n'est pas un truc qui est garanti. Bon. Je dis que ce n'est pas garanti, parce que souvent, toi, tu travailles, tu es obligé de fuir. D'aller te cacher ailleurs. Quand ils vont venir repartir, ensemble, tu as commencé ton travail. Donc, c'est à cause de ça que je dis que ce n'est pas garanti. Je vois, ils viennent, ils brûlent les couilles, nous chasser. Non, ce n'est pas un truc qui est garanti, quoi. Donc, voilà.
Retour à Odiné, capitale de la région du Kabadougou. Puis, cap sur la région du Folon. Notre destination est précisément Téini, village situé à 15 km de Mignan, chef-lieu de région, et à 8 km de la République de Guinée-Conakry. Dans cette petite ville, nous rendons visite aux deux responsables d'une agora communément appelée Grain. Sans faux fuyant, voici ce qu'il nous rapporte.
Kone Kaba, je suis à Téni, pratiquement à la frontière de Guinée. Nous avons un problème ici qui peut causer beaucoup de problèmes sur l'alimentation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des cultivateurs. On a nos produits qui est maïs qui sort beaucoup, qui est dans Guinée. Voilà.
C'est pourquoi ne pas s'organiser et puis faire de telle sorte que les produits d'ici là n'ont qu'à partir de l'autre.
Les sociétés de maïs là, sont de la Côte d'Ivoire qui fait entrer le maïs. En Guinée, sont de la Côte d'Ivoire sur le Mali. C'est eux qui les appellent pour venir prendre les maïs ici, d'entrer en Guinée.
Sangare Sekouba de Tieni, c'est nous ici. Ça provient des réseaux qui nous fatiguent beaucoup. Téléphone, on appelle, c'est un réseau de Mali qu'on prend pour faire communication. Mais on a la frontière. Bon, on ne souhaite pas, mais il y a problème de djihadistes. S'il y a un problème là, on ne sait pas comment on va appeler Abidjan, on ne sait pas comment on va appeler les grandes villes.
Quant à cette dame Sangare Nassira, elle nous rapporte que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les femmes souhaitent que le gouvernement se penche sur le cas des hommes.
On veut que le gouvernement quand nous regarder ici, on est dans la frontière, on veut faire commerce, mais on n'a rien, on n'a pas les moyens de faire ça. Aujourd'hui, on fait la commerce. La commerce seulement, je connais. Je suis né dedans et j'ai grandi dedans. Mais les autres là, on fait un chien d'arachide, mais l'arachide là, quand on plante, vraiment, ça donne. Mais on a besoin de les produits pour faire travail d'arachide. Normalement, les matériaux qu'on doit prendre pour faire pour les femmes là, ils doivent nous aider pour ça. Mais les maris là, vraiment, eux-mêmes là, les idées là, ça ici arrachée de la femme. Tous les petits trucs qu'ils doivent faire pour gagner 5 francs, 5 francs, pour payer savon, pour payer, comme on appelle, l'argent de popote. Ici, ici là, on ne donne pas l'argent de popote. Ça seulement, tu gagnes ça tout ça d'argent d'arachide. Mais arachide aussi là, quand on en a tout l'arachide, les maris aussi, ils viennent pour dire qu'il faut me donner, si Anakar arrive, je vais vous rembourser votre argent. Il ne paye pas.
Il ne paye,
paye pas crédit là. Mais tout ça là, c'est affaire de moyenne. Si aujourd'hui il y a travail, il y a un projet dans la frontière ici. Les maris là, les idées là, ils ne peuvent pas participer pour la femme.
Selon Sangaré Sekouba, trouver une réponse au chômage des jeunes s'impose. Ce qui pourrait leur éviter certaines tentations qui pourraient être préjudiciables à notre pays.
On est aux frontières. Il n'y a pas port, il n'y a pas transport, rien ne marche. C'est les garçons, c'est les femmes qui se débrouillent en pays. Pour les garçons là, c'est trop difficile. Bon, si on n'a rien, garçon là, quand tu n'as rien, obligé, si tu n'as pas bien fait, tu apprends arme, tu vas devenir djihadiste. Bon, djihadiste là, ça coûte de l'argent. Donc, il n'a qu'à nous voir pour ça, pour que nos pays là, il n'a qu'à rester en paix. Vraiment, c'est que moi, Sangaré Sekouba, je souhaite.
À 5 km plus à l'ouest, toujours en moto, nous voilà à Dironzo, dernier village ivoirien en partance pour la République de Guinée-Conakry. Ici, le problème qui inquiète plus d'une personne est l'occupation anarchique des terres cultivables, voire des forêts classées colonisées par des travailleurs saisonniers descendants du Mali et du Burkina Faso. Interrogé sur le dossier, ce notable réagit.
Bakayoko Bazoumana, secrétaire de la coordination des chefs traditionnels de la région de Folo, président de la service civile militaire. Pour dire à la frontière, il y a un problème ici, par exemple. Il y a des étrangers Mianga qui sont arrivés. Chez eux, il n'y a pas de terre. Ils sont venus se confier à nous, nous qui sommes leurs parents ivoiriens. Nous, on leur cédons la terre pour qu'eux aussi travaillent pour gagner leur pain. Mais comme ils sont gourmands, une fois que vous donnez un hectare à un Mianga, par exemple, si vous donnez deux, il va faire six. On a dit à nos parents, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire recenser d'abord. Parce qu'un homme, vous lui partez lui donner de la terre aujourd'hui, 5 hectares, ses parents viennent la nuit et vont s'installer là-bas sans que vous ne soyez au courant.
Vous dites que souvent, de nuit, ils font venir installer leurs parents. Et on sait qu'il y a le problème djihadiste aujourd'hui qui menace la Côte d'Ivoire. Comment essayer de trouver des solutions à ce problème, c'est-à-dire les installations nocturnes?
Et ils connaissent que c'est leurs parents, mais nous, on n'a pas confiance. Parce que c'est une période djihadiste. Ils peuvent s'installer là-bas. Donc c'est à cause de tout ça, on prend nos précautions. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle djihadiste. Mais nous, on connaît, on ne voulait pas que ça arrive chez nous.
Comment les autorités compétentes comptent-elles renforcer cette résilience des populations frontalières? Voici la réponse du ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique. Mamadou Touré.
Il y a eu des tentatives de recrutement et l'extrême pauvreté des populations, l'enclavement de ces zones, le manque d'infrastructures pourraient donc exposer ces populations. C'est des groupes qui essaient donc de jouer sur la vulnérabilité de ces jeunes en leur proposant 750 euros, une moto et souvent des activités illicites autour de l'orpaillage, etc. Mais je peux vous rassurer que pour l'heure, le gouvernement a décidé donc d'agir rapidement. En plus de la réponse militaire efficace qui est apportée, apporte aussi une réponse sociale.
Mais quel est l'impact de cette réponse sociale du gouvernement sur la population du district autonome des Savanes? Pour avoir une idée nette de cet impact, nous nous sommes rendus dans la région du Poro. Bengue, ville située à 65 km au nord de Korogo, chef-lieu de la région du Poro. Le préfet du département de Bengue, Déoulé Augustin, nous dépeint ici les réalités de sa localité.
La préoccupation majeure du département de Bengue concernant le réseau téléphonique mobile qui ne couvre pas totalement l'ensemble du département, notamment les deux sous-préfectures frontalières au Mali Katogo et Mbogou qui sont couvertes souvent par le réseau malien. Donc il est impérieux que quelque chose soit fait rapidement dans ce sens-là pour pouvoir régler cette question dans l'urgence. Parce que nous avons une police de proximité qui est déjà installée, qui n'a même pas de radio. C'est avec les téléphones portables qu'ils communiquent. Et si toutes ces communications sont interceptées par nos frères maliens d'à côté, il va s'en dire qu'on s'expose à beaucoup de choses.
Toujours à moto, de Bengue, nous nous rendons dans la région de la Bagoué et précisément à Tengrela. Porte d'entrée des bœufs transhumants en Côte d'Ivoire, à Tengrela, il y a problème. C'est ce que nous révèle ici le président des éleveurs de la région de la Bagoué.
Traoré Issa, président de l'Union régionale des éleveurs bovins de la région Bagoué, résident à Tengrela. Nous qui sommes à la frontière à Tengrela, vraiment on a des problèmes avec nos voisins. Tous les parcs maliens qui sont à mon niveau ici, ça a été enregistré par l'agent Sikosav et moi.
Souvent accusé de complicité avec les bouviers nomades venant du Mali, Traoré Issa se défend.
Le butin qui charge, qui vient là, il y a un certain homme qui vient d'abord. Dans mon poste d'entrée, ils sont ici enregistrés jusqu'à leur destination. Il n'y a aucune personne qui descend en route. Parce que souvent, on peut dire que ce que nous on a analysé, on peut venir sous forme de bouvier. Et puis maintenant, une fois qu'ils sont rentrés dedans là, c'est pour laisser le camion partir et puis ils sont libres de faire tout ce qu'ils peuvent.
Mais notre périple n'a pas pris fin. À partir de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, nous prenons un car d'une compagnie de transport reliant quotidiennement Korogo à Man pour retourner à Odjene. C'est une route régulièrement fréquentée par la diaspora burkinabé, pour la plupart planteurs de cacao résidant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons terminer ce reportage par des exemples de bon voisinage qui existent tout de même. Pour preuve, lors de la fête de la lumière célébrée à Téini, village situé à 15 km de Mininyan et à 8 km de la République de Guinée, une forte délégation conduite par le secrétaire général de la commune de Noumoudjila était présente. Toumani Sangaré.
Comme la Kiani, Noumoudjila, c'est la même famille. Donc on est venu pour accueillir nos sœurs qui sont quittés hier. Donc on est venu pour l'accueillir nous avec les gens de Kiani pour montrer qu'on est même chose. Nous sommes à la frontière, Kiani est la frontière. Donc s'il y a quelque chose à Kiani, donc c'est pour nous tous. Donc si nous envoyons la commission, il faut qu'on vienne de reçoit. On fait la cérémonie ensemble, 25 personnes. Donc, il y a d'autres qui sont venus en moto. Bon, le massacre est chargé.
Relevons un autre signe de cohabitation pacifique, de stabilité et de paix à mettre à l'actif du préfet de Tengrela.
On est rentré au Mali, dans le cercle de Kolondieba, aller échanger avec le préfet Khalifa Koné, faire une cohabitation pour trouver une solution à ces petits litiges. Donc on a essayé de voir avec eux, ils ont donné la main toute, les vols de bétail, les conflits, bon, les braquages, il y a tout ça là. Tout ça. En matière de bétail, il y a tout. C'est un structure qui est très très difficile à gérer. Malgré tout ça là, on arrive à faire quelques petits gestes au cas de vol de bœuf. On a échangé, on a trouvé une formule.
Vol de bétail, départ et d'autres de la frontière Côte d'Ivoire-Mali, tracasserie routière, déficit en infrastructures de base, pauvreté, chômage des jeunes. Comment inverser la tendance? Voici la position du ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique.
Nous avons un ambitieux programme visant donc à donner donc des perspectives aux jeunes donc de ces régions, financement d'activités génératrices donc de revenus dans ces zones. Pour la première phase de ce programme, nous sommes à 19 500 jeunes pour un peu plus de 8 milliards de francs CFA, donc un peu plus de 6 milliards qui vient donc du gouvernement ivoirien et un prêt de 1 milliard 8 qui vient donc de l'AFD. Mais à terme, c'est près de 42 000 jeunes dans cette phase qui seront traités pour 23 milliards de francs CFA.
Ce reportage a été réalisé et présenté par Bakary Touré-Labas, production Radio de la Paix.
C'était Reportage
Radio de la Paix.